Bonjour amis auditeurs de Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0. Vous êtes dans l'émission de Paul Turchet et Bruno Point, musique au pluriel. Aujourd'hui, dans une formule inédite, Paul Turchet, retenu dans son Jura, n'est pas présent, mais il sera là pour la prochaine émission. Mais donc, formule inédite où nous avons la visite d'un grand musicien de notre région, Jean-Claude Guérineau, qui va se présenter son parcours musical. Et j'ai eu l'occasion, et c'est le point de départ de notre rencontre, de l'écouter dans plusieurs de ses concerts, puisqu'il dirige une chorale, des chœurs, des chanteurs et chanteuses, et un orchestre. J'ai donc eu l'occasion de l'écouter à Lyon, à plusieurs reprises, et notamment, j'ai été bouleversé par l'audition de l'Adagio d'Albinoni, un des must du hit parade de la musique classique, que j'oserais dire j'ai redécouvert. C'est une œuvre que, comme nombre d'œuvres connues, j'avais rangée dans un tiroir et que je n'écoutais pas en me disant « je la connais, c'est trop connu ». Et là, je l'ai redécouverte et il nous expliquera ce qu'il en est. Une fois cette introduction mise en place, donc l'émission sera donc consacrée et à l'Adagio d'Albinoni, et vous le verrez, à son histoire particulière, et à Jean-Claude Guérineau et son parcours musical. D'ores et déjà, je lui passe la parole.
Tout d'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions et de participer à une émission à Bourg, puisque je viens de m'installer dans la Dombe, qui est un endroit merveilleux. J'ai quitté Lyon et je suis heureux de venir profiter de toute la beauté du pays de Bresse et de la Dombe. En ce qui concerne mon parcours, il est double. J'ai une double casquette. D'une part, comme enseignant, puisque j'ai terminé ma carrière comme formateur des futurs professeurs de musique dans les collèges, dans les lycées. Et en même temps, parallèlement, parce que ça me paraît très intéressant de pouvoir avoir une activité d'interprète et une activité de pédagogue. Les deux interfèrent de manière très positive. Donc une carrière de chef d'orchestre et chef de chœur, et donc avec un nombre important de concerts, et notamment, pour corroborer ce que je disais, des concerts pédagogiques où j'ai pu faire pénétrer la musique dans les classes, des collèges, des écoles primaires, et de manière à ce que les enfants découvrent une musique qu'ils n'auraient pas souvent proposée, et quand ils la découvrent, ils l'adorent, et donc voilà, c'est un petit peu la récompense de toute ma vie de chef d'orchestre et de professeur.
Alors, merci pour cette présentation où on voit que vous avez, je dirais, vraiment mené une double mission, à la fois pédagogue et à la fois instrumentiste, chef de chœur, chef d'orchestre. Ainsi, vous avez pu vivre la musique et mieux transmettre. Et donc, maintenant, nous allons écouter une première œuvre que je vous laisse présenter.
Alors, il s'agit de l'Adagio d'Albinoni. Alors, évidemment, cet Adagio, tout le monde l'a entendu au moins une fois. Même les gens, même s'ils ne savent pas, ça s'appelle l'Adagio d'Albinoni. Il suffit de chanter les trois premières notes et tout le monde le connaît. Ça fait partie des number one de la musique classique. Et j'ai voulu, pour un de mes concerts, en faire une version pour chœur. Rajouter à la version pour qui est uniquement pour orchestre à cordes et orgue, permettre à la voix d'apporter ce côté assez émotionnel que peut apporter la voix par rapport à l'instrument.
Alors nous écouterons votre version prise lors de votre dernier concert. À la fin de cette émission, nous allons pour l'instant l'écouter dans, je dirais presque, sa version initiale par un groupe orchestrale d'instruments à cordes qui s'appelait en son temps I Musici et qui a beaucoup participé à la création, et nous l'expliquerons pourquoi, à la création et à la popularité de cette œuvre. Donc voici l'Adagio d'Albinoni par I Musici.
Thank you.
Nous venons d'entendre et d'écouter une des versions, je dirais, quasi historiques de l'adagio d'Albinoni par Rinuccini. Nous allons nous intéresser à ce compositeur et, je dirais, plus largement à son époque. Nous sommes mi-17e et nous allons déboucher jusqu'au début du 18e. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Jean-Claude Guérineau qui va nous dépeindre les particularités de cette musique. Nous sommes en Italie, il va nous expliquer pourquoi et comment, et qu'est-ce qui s'est passé au niveau musical à cette époque.
Alors bon, cette période de la musique en Italie, c'est l'avènement de la musique instrumentale. D'abord, ne serait-ce que par les terminologies de la musique actuelle, quand on parle d'un terme technique musico, c'est de l'italien, c'est adagio, comme adagio d'Albinoni, c'est le tempo de la musique, c'est crescendo, quand on veut jouer de plus en plus fort, diminuendo, quand on veut jouer plus ou moins en moins fort, ritenuto, enfin tous les termes techniques sont les termes italiens. Et en même temps, on a l'avènement des grands luthiers italiens qui ont donné des instruments qui encore actuellement sont des références absolues, Stradivarius pour le violon par exemple, pour le plus connu. Donc ça donne lieu à une prolifération de musique instrumentale, notamment dans le domaine du concerto, avec évidemment le plus célèbre entre eux, Vivaldi, qui a écrit plus de 300 concertos pour tous les instruments, notamment pour le violon. Plus célèbres sont évidemment les quatre concertos des quatre saisons, et puis Albinoni, et puis Marcello, et puis Corelli, j'en oublie, et ils sont très nombreux. Et vraiment, c'est une période extrêmement riche pour la virtuosité instrumentale et donc l'avènement des orchestres à cordes.
En fait, ce que vous nous dites, Jean-Claude Guérineau, c'est que la fabrication, le perfectionnement des instruments a quelque part généré un nouveau style de composition musicale.
Absolument, puisque les instruments deviennent plus perfectionnés, sonnent de mieux en mieux, s'individualisent des instruments qui étaient, bon, peut-être un peu moins sonore, comme les viols de gambe, là, les violons, les violoncelles, les violons alto, ont une capacité musicale plus grande, les instruments avant, le hautbois, la flûte, passe de la flûte à bec à la flûte traversière. Bref, tout ça donne envie aux compositeurs d'en tirer le meilleur parti, notamment dans la virtuosité.
Bien, et donc, pouvez-vous nous situer ce qu'il y avait avant, et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, vous venez de l'expliquer, et avant, qu'est-ce que c'était?
La Renaissance, c'est... D'abord, la musique reste très proche de la musique populaire, de la musique de danse, et puis de la musique religieuse, bien entendu, qui reste encore très accrochée à la musique médiévale. Alors, on évolue évidemment avec Pergolèse, avec Monteverdi, mais la musique proprement instrumentale, purement instrumentale, purement concertante, n'est pas encore arrivée. C'est vraiment cette période de la moitié du XVIIe, avec ces grands luthiers, que la musique instrumentale va prendre son indépendance par rapport à la musique religieuse et par rapport à la musique populaire.
Alors, nous allons écouter maintenant d'Albinoni, car il n'a pas écrit que l'adagio, dont nous parlerons d'ailleurs tout à l'heure pour ce qui est de son histoire, mais Albinoni dans un mouvement d'un concerto pour hautbois. Thank you. vous avez donc exposé qu'à cette époque, le perfectionnement des instruments a généré la technique instrumentale et donc la présence des instruments dans la musique d'une manière totalement différente par rapport aux années antérieures, et que donc sont apparus nombre de, notamment de concertos pour instruments solistes, violon, violoncelle, hautbois, flûte, car les aspects techniques de ces instruments le permettaient. Et donc ça a généré immanquablement une création chez tous ces auteurs. Un autre phénomène dont vous m'avez parlé en aparté et que je trouve très intéressant est le fait que tous ces auteurs se côtoyaient, s'écoutaient, et que s'est développé à cette époque, et d'ailleurs plus tard, mais en tout cas c'était une pratique courante, un phénomène de transcription. Donc transcription ne veut pas dire plagiat, ça veut dire j'aime, donc je me sers d'eux, et j'écris, et je brode à ma manière. En tout cas, je vais vous laisser la parole pour en parler.
Oui, alors c'est vrai que c'est très répandu, et je dirais notamment entre deux compositeurs de ton premier plan, c'est-à-dire Vivaldi et Bach. Bach était manifestement très admiratif des œuvres de l'Italien, le prêtre Rosso, le prêtre Roux, et nombreuses œuvres concertantes de Vivaldi ont été retranscrites par Bach. Alors la retranscription, c'est la copie conforme, on ne change rien, on prend les œuvres telles qu'elles sont écrites, mais on change simplement l'instrumentation. C'est-à-dire que les concertos pour violon de Vivaldi sont transcrits par Bach pour le clavecin. On a le meilleur exemple, c'est son concerto pour quatre violons de Vivaldi, qui a été transcrit pour quatre clavecins par Bach. Alors c'est vrai que c'est l'enrichissement de la technique du clavecin par rapport au violon, mais l'orchestre est le même, et il y a peut-être quelques enluminures, je dirais, supplémentaires, mais sinon c'est une retranscription très fidèle. Alors on a ça dans les concertos, et puis on a aussi les transcriptions de Bach pour orgue, des concertos de Vivaldi pour orgue. Donc ce qui est le maître du violon, la Vivaldi, est transcrit par le maître de l'orgue et du clavecin, qui était Bach. Voilà pour ces transcriptions. Plus tard, on trouvera à l'époque romantique ce qu'on appelait les paraphrases. Alors c'est différent. C'est des compositeurs qui prenaient un air d'opéra séparé et qui, comme un peu dans le jazz, partait de ce thème pour en faire des variations et des paraphrases, de paraphraser la musique. Là, avec Bach et Vivaldi notamment, mais il y a aussi Marcello qui a été transcrit par Bach, c'était vraiment, on reprend la musique telle qu'elle et on change simplement l'instrument, notamment l'instrument soliste, puisqu'il s'agit de concerto.
Alors à ce titre, nous allons écouter un exemple de Vivaldi transcrit pour l'orgue, ainsi que vous l'avez dit, par Bach, joué par le très grand organiste français Guillou. Il s'agit du concerto en la mineur de Jean-Sébastien Bach, d'après un concerto de Vivaldi, et en l'occurrence dans une version pour orgue seul, joué par Jean Guillou. Thank you.
Un autre exemple de transcription célèbre, c'est le fameux concerto pour hautbois de Barcello, qui a été transcrit par Bach pour clavecin, sol. Le concerto de Marcello, c'est pour hautbois, orchestre à cordes. Et la version de Bach est pour clavecin, sol. Et là, c'est une version pour piano, donc plus moderne, avec la sonorité du piano, qui est mise particulièrement en lumière par la merveilleuse pianiste Katia Bounatichvili, qui donne encore à cette transcription un côté émotionnel encore plus grand, et Dieu sait si il est fort déjà avec le thème au hautbois.
Donc version que nous écouterons après la version originale pour hautbois et orchestre à cordes de Marcello.
Et chacun jugera l'intérêt de la transcription ou pas.
Ou l'intérêt des deux, je serais tenté de dire. En tout cas, c'est notre intime conviction. Thank you. Nous avons essayé avec Jean-Claude Guérino de vous dresser un panorama de la musique italienne à l'époque d'Albinoni. On peut dire musique italienne car la musique était italienne, ainsi que Jean-Claude nous en a parlé, tous les termes musicaux, crescendo, allegro, allegretto, adagio sont italiens. À tel point que lorsque Mozart est arrivé peu de temps après, eh bien la plupart de ses opéras ont délivré en italien. Il faut attendre deux œuvres majeures que sont l'Enlèvement au sérail et la Flûte enchantée pour avoir des livrets en allemand. Donc nous sommes à l'époque d'Albinoni, l'apogée de la musique instrumentale qui arrive après la Renaissance avec la musique religieuse et la musique populaire. Nous avons la musique instrumentale. Nous allons maintenant revenir au cœur, ou en tout cas au sujet de cette émission, qui est l'Adagio d'Albinoni, pour en écouter l'histoire, car elle est digne d'un polar. On a là une histoire liée à un musicologue italien, et donc je vais passer la main à Jean-Claude Guérino pour nous expliquer ce qu'il en est du fameux Adagio d'Albinoni.
Alors je dois dire que si Albinoni revenait parmi nous 300 ans plus tard, il serait le premier étonné de savoir qu'il a composé cet adagio. En effet, en réalité, c'est un musicologue, Remo Gaggiotto, qui a découvert dans la bibliothèque de Dresde, après un incendie, un bout de partition avec une base qu'on appelle une base chiffrée, c'est-à-dire un accompagnement avec des indications d'accords, et puis un petit bout de mélodie, une ébauche d'écriture, quelque chose. Et donc ce musicologue, Remo Gaggiotto, s'est intéressé à ce document et l'a terminé, l'a écrit pour orchestre à cordes, avec accompagnement d'orgue, un ostinato rythmique, et puis de tout ça est sorti cet adagio. Alors, comme le manuscrit d'origine était signé par Albinoni, Remo Gaggiotto a jugé bon quand même d'attribuer l'œuvre terminée à Albinoni. Mais en réalité, donc on devrait dire, l'adagio de Remo Gaggiotto, j'ai du mal à dire son nom, Gaggiotto. Et donc, pour tout le monde, c'est Albinoni son compositeur. Mais bon, il faut reconnaître que des fois, les compositeurs finissaient pas d'écrire ce qu'ils avaient commencé. Le meilleur exemple, c'est quand même le Requiem de Mozart, qui à la fin n'était qu'une ébauche, dont le dernier mouvement n'était qu'une ébauche. Il avait la partie chœur, des paroles, l'orchestre vaguement, accompagnement, et il fallait que un de ses élèves notamment, finisse d'écrire la totalité du Requiem, parce que tout n'avait pas été achevé.
Là, pour faire un parallèle avec une autre émission de Radio B, le GECO aime le jazz, on est un peu dans un schéma de jazz avec une grille.
Voilà.
Une grille, et finalement, ce qu'a fait ce musicologue averti italien, c'est il a créé une version de la grille.
Voilà, tout à fait.
Voilà, donc voilà. On peut dire que la grille est d'Albinoni, et que la version que nous entendons...
Est enrichie,
construite.
Construite, développée, avec des passages de virtuosité du violon, et puis toujours ce thème ostinato, avec une pulsation à trois temps, qui donne une espèce de sensation de marche.
Je dirais, pour valider la qualité, parce que je personnellement, et je pense que bien sûr Jean-Claude Guérino qui on a fait une transcription. Le Valide, c'est une très belle œuvre.
Ah, bien sûr.
Qui, dont le, bah, je dirais,
elle n'aurait pas le succès planétaire qu'elle a, puisqu'il en existe plein d'exemples, puis quel orchestre à cordes n'a pas enregistré, n'a pas joué cet adagio.
Et en l'occurrence, pour valider, je dirais, la qualité, s'il en était besoin, c'est l'écoute qui la valide. Mais il faut voir aussi que ce musicologue a écrit des œuvres qui font référence sur nombre de compositeurs.
Oui, c'est un qui s'est intéressé, par exemple, à répertorier toute l'œuvre de Vivaldi, à écrire des biographies sur Puccini, sur Verdi. Donc, mais bon, il aurait composé quelques œuvres, mais qui nous sont inconnues, qui ne sont pas parvenues. Peut-être qu'on les découvrira un jour, mais le nombre d'œuvres qui dorment dans les bibliothèques du monde entier, c'est incommensurable. Les jouera-t-on un jour? Ce qui est terrible, c'est quand un compositeur écrit son œuvre, il faut que quelqu'un la sorte de l'endroit où elle se trouve pour lui donner le son qu'elle mérite, mais malheureusement, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a une œuvre de Mozart, d'ailleurs, récemment, qui a été redécouverte dans une bibliothèque. Bon, voilà.
Il ne faut pas oublier que la musique a cette particularité que, un, il y a le compositeur, celui qui écrit l'œuvre. Après, il y a celui qui le joue,
l'interprète.
Et puis après, il faut qu'il y ait un auditeur. Il y a une troisième personne, c'est l'auditeur. Absolument. Et la musique, finalement, la musique, c'est l'ensemble de ces trois intervenants, bien distincts, mais qui forment un tout. Et la musique, tout d'un coup, existe.
Un livre, du moment qu'il y a un lecteur, tout va bien. En musique, bon, il y a le lecteur qui lit la partition, mais bon, il faut qu'elle soit jouée et proposée, et donc écoutée.
Alors, dernière particularité, nous allons écouter, j'allais dire, votre version. Donc nous voyons qu'il y a trois intervenants dans cette affaire. Il y a Albinoni qui a créé la grille, ensuite il y a ce musicologue italien qui l'a mis en musique, et puis après il y a Jean-Claude Guérineau qui, animateur et dirigeant de deux formations importantes, une symphonique et l'autre des chœurs, y a mis sa patte pour l'adapter à ses formations.
Voilà, alors, bon, je partage ce travail avec un de mes choristes, Jean-Marie Blion, qui est aussi passionné par la transcription. L'année d'avant, on avait monté un choral de Bach, un choral qui était écrit pour orgue, on l'a transcrit pour chœur et orchestre. Et là, donc, il s'agissait de transcrire cet adagio pour chœur, avoir le plaisir de chanter, tout le monde fredonne la mélodie de cet adagio, donc pourquoi pas l'écrire pour chœur à quatre voix et donner à cette œuvre baroque peut-être un caractère un peu romantique, puisque la voix, les paroles de la voix, la parole du texte qui est un lacrymosa. Alors, bien sûr, cet adagio donne un sentiment de pas de tristesse, mais de mélancolie. Donc le choix des paroles qui revient à Jean-Marie Blion, c'est plutôt le choix du lacrymosa. Moi, j'ai essayé de lui donner des contre-chants qui le rendent un peu plus joyeux. Et puis, je trouve, d'ailleurs, bon, les gens ont beaucoup apprécié de l'entendre avec la voix. Ça donne une dimension. Bon, Albinoni a écrit ça au XVIIe siècle. Gaggiotto lui a donné une version un peu XXe siècle. Ben, je dirais que ma version avec chœur donne une version un peu XXIe siècle.
Eh bien, après ce résumé de l'histoire de cette œuvre, nous allons maintenant l'écouter dans votre version.
Enregistré en public
récemment, il y a combien de temps? Quelques mois.
Il y a 6 mois. Oui.
Il y a 6 mois. Eh bien, écoutons cet adagio d'Albinoni par vos ensembles, Jean-Claude Guérineau. Vous avez écouté au cours de cette émission l'Adagio d'Albinoni, bien sûr, en présentation, puisqu'il est le thème de notre émission, par l'ensemble I Musici, puis le concerto pour deux hautbois d'Albinoni, son Allegro par I Solisti di Perugia, ensuite une transcription de Bach d'un concerto de Vivaldi, puis transcrit pour orgue joué par Jean Guillou, ensuite deux versions du concerto d'Alessandro Marcello, concerto pour hautbois, tout d'abord la version pour hautbois, et ensuite une transcription pour piano interprétée par Katia Bugnacvili. Et enfin, vous avez écouté par l'ensemble de Jean-Claude Guérino, à la fois ses chœurs et son orchestre Philharmonia, sa version de l'Adagio d'Albinoni. Je vous convie à vous renseigner pour vous rendre au dernier concert de Jean-Claude Guérino, qui aura lieu à l'abbaye Saint-Martin-des-Nez le samedi 12 avril à 18h, avec beaucoup d'œuvres, et notamment un requiem qu'il a composé. Et j'aurai le plaisir de vous présenter la trajectoire et les interprétations de Jean-Claude Guérino avec ses ensembles lors de la prochaine émission. D'ici là, passez un bon mois, le printemps s'annonce un petit peu. À bientôt.